n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous proposez aujourd'hui une philosophie du végétal.
Philosophie du végétal, c'est le titre d'un ouvrage collectif paru aux éditions Vrin, mais c'est aussi tout un mouvement que l'on remarque à travers les diverses publications récentes. Champs, herbes, plantes ou fleurs, le végétal exerce un attrait incontestable sur les penseurs et c'est une nouveauté car ce qui ressort en premier lieu de ces parutions, c'est le constat que jusqu'à maintenant, le traitement de cette question végétale manquait cruellement à la pensée. Pourquoi une telle absence et pourquoi une telle émergence aujourd'hui? De quoi est faite cette philosophie du végétal? Quelles interrogations soulève-t-elle et que peut-elle nous apporter? On fait le point dès maintenant.
Que sont devenues les fleurs du temps qui passe? Que sont devenues les fleurs du temps passé? Les filles les ont coupées, elles en ont fait des bouquets. Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous jamais?
Entre philosophie et plante, les liens ont toujours été étroits. Aristote, considéré comme le père de la biologie, Lamétrie, médecin et philosophe auteur de L'homme-plante, Goethe et sa métamorphose des plantes, ou encore Rousseau, passionné de botanique, les exemples ne manquent pas pour révéler cette proximité de la réflexion avec les végétaux. Pourquoi les plantes semblent-elles alors absentes de la pensée et pourquoi semblent-elles faire un retour ou une apparition fracassante chez elles? C'est que jusqu'ici, le végétal n'était souvent traité que de manière partielle ou très circonscrite, comme un moment de rêverie ou au contraire de pure expérimentation scientifique, ou encore comme une question préliminaire à une analyse animale et anthropologique. Qui pourrait bien ainsi présenter tel philosophe comme le philosophe du végétal? Qui pourrait désigner le penseur par excellence des plantes dans l'histoire des idées? Qui pourrait dire en quoi consiste une philosophie du végétal? Là est le problème, les réflexions sur les plantes ne sont pas absentes, mais il n'y a pas de philosophie du végétal en bonne et due forme, ce qui est en train de changer aujourd'hui. Éloge de la plante, plaidoyer pour l'arbre, à quoi pensent les plantes? Et bien sûr, le brillant Vie des plantes d'Emmanuelle Coccia, ce sont quelques-uns des titres parus et qui permettent de dessiner cette nouvelle philosophie. Mais pourquoi maintenant et que nous dit-elle? Comme toute philosophie, les problématiques posées dans le cadre végétal, des racines jusqu'aux fleurs, embrassent des dimensions multiples. Il faut ainsi distinguer parmi toutes ces réflexions, celles d'abord qui portent sur les plantes en tant que telles, qui soulèvent des problématiques de mort, de vie, de beauté, d'intelligence ou de conscience des végétaux. C'est ainsi le cas du livre d'Emmanuelle Coccia, La vie des plantes. Puis il y a aussi les analyses de l'espace végétal, la forêt, les champs ou les jardins, comme autant de territoires d'exploitation ou d'exploration, des modèles de culture ou de politique. C'est ainsi que peut s'ouvrir l'ouvrage de la philosophe Joëlle Zask, La démocratie au champ. Et puis il y a enfin les pensées qui tissent un lien entre les hommes et la nature à partir du végétal. C'est ce qu'on trouve dans le très beau livre de l'historien Alain Corbin, La fraîcheur de l'herbe. De fait, il faut différencier la pensée du végétal pour lui-même et la pensée du végétal comme modèle pour l'homme. Mais toutes les deux ont le mérite d'inverser le rapport entre l'homme et la nature, non plus l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, non plus l'homme maître de la nature, mais la nature pour elle-même, ou comme biomimétisme, comme source de pensée et de vie pour l'homme.
Alors regarde bien, ici c'est ce que l'on appelle les racines d'ancrage. Et cette longue tige souterraine, c'est pas du tout une racine, c'est ce que l'on appelle un rhizome. T'as vu, ça ressemble un peu au chaume, c'est-à-dire qu'ici on trouve des nœuds, et là il y a même des petits bourgeons. Et ce rhizome est lui-même alimenté par de longues racines qui peuvent descendre à 5 ou 6 mètres de profondeur. C'est curieux, non ?
Ce que le végétal peut nous apporter et ce qu'une telle philosophie peut aussi nous apporter, c'est de quoi penser un autre rapport à la nature. C'est en partie dans cette actualité d'urgence écologique que les plantes font d'ailleurs leur grande apparition dans la pensée. Un autre rapport au travail, au partage, à la culture et à l'habitation des territoires. Un autre rapport au temps aussi, celui de la croissance des plantes et d'une époque, perdue peut-être, où l'on avait le loisir de les regarder et de les respirer. Mais il y a quelque chose encore en plus derrière tout cela, l'idée que les ressources, les idées, idées, solutions ou remèdes ne se trouvent plus seulement en l'homme, mais ailleurs, dans ce qui l'entoure et l'environne. C'est ainsi que Gilles Deleuze et Félix Guattari avaient pris le rhizome comme nouvelle structure de savoir, ou que Descartes avait dessiné un arbre de la connaissance. Et c'est ainsi que les plantes, loin d'être un objet passif d'étude, résistent à nos usages politiques ou éthiques et remettent même en question nos manières de penser.
Merci beaucoup Géraldine. Dites-nous le livre dont vous avez parlé.
Philosophie du végétal, c'est paru aux éditions Vrin et on y trouve les contributions d'Emmanuel Ecoccia, Denis Diagre van der Pelen, Jean-Marc Drouin entre autres, et c'est à lire donc chez Vrin.
Merci. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.